adversaire, ma grande amie. C'est le nom qui te parle et qui est enregistré spécialement sur cette cassette deux contes d'Andersen pour toi. Le premier conte est l'histoire des cygnes sauvages.
Demeurait un roi qui avait 11 fils et une fille nommée Louise. Le haut frère, jeune prince, portait une croix sur la poitrine et une épée au côté. Quand ils allaient à l'école, ils écrivaient avec des stylets de diamants sur des ardoises d'or et ils apprenaient aussi bien par cœur qu'ils savaient lire. C'était vraiment des princes. Leur sœur Louise, assis sur une petite chaise en cristal de roche, avec entre les mains un livre d'images qui, à lui seul, valait bien la moitié d'un royaume. Ils étaient donc très heureux, mais cela ne devait pas durer. Leur père, qui était le roi de tout le pays, était veuf. Il se maria pour la deuxième fois avec une méchante reine qui n'aimait pas du tout les pauvres enfants. Ils purent s'en convaincre dès le premier jour. En effet, il y eut une grande fête au château et les joies à la dînette. Les joyeux des gâteaux et des pommes cuites qu'ils recevaient d'ordinaire, la nouvelle reine ne leur donna que du sable en disant que c'était assez beau pour eux. La semaine suivante, elle fit conduire la petite fille à la campagne dans une famille de paysans et il ne fallut pas longtemps à la méchante reine pour retourner tellement l'esprit du roi à l'égard des pauvres princes qu'il ne se soucia même plus d'eux. Envolez-vous d'ici à travers le monde et prenez soin de vous-même comme vous pourrez, dit la méchante reine qui était en même temps sorcière. Envolez-vous comme de grands oiseaux. Mais elle ne put pas leur faire autant de mal qu'elle le souhaitait, car ils furent transformés en deux cygnes sauvages qui s'envolèrent en poussant des cris bizarres par-dessus le parc et la forêt. Ils passèrent vers le petit lapin au-dessus de la cabane où Louise dormait dans son petit lit. Ils planèrent au-dessus du toit, tendirent le cou et battirent des ailes. Mais personne ne les vit ni ne les entendit, et ils durent continuer leur route, toujours très haut parmi les nuages, bien loin à travers le monde. Ils volèrent vers une grande forêt sombre qui s'étendait le long de la mer. La petite Louise resta à la chaumière. Chaque fois que le rayon du soleil tombait sur ses joues, elle pensait aux baisers brûlants de ses frères. Les jours se succédaient monotones. Quand le vent soufflait à travers les roseaux devant la maison, il murmurait pour rire. Y a-t-il rien de plus beau que vous? Mais les roseaux secouaient la tête et disaient: si, si, il y a Louise. Le dimanche, quand la vieille paysanne s'asseyait sur le pas de la porte et lisait son livre de prière, le vent venait à tourner les pages et disait: n'y a-t-il personne de plus pieuse que toi? Oui, il y a Louise, répondait le livre, et les roses disaient que c'était bien fait. Lorsque Louise eut 11 ans, elle revint au palais. Et quand la reine vit combien elle était devenue belle, son cœur fut plein de fureur et de haine. Elle n'aurait bien changé ainsi, elle aussi. Et je n'osais pas le faire parce que le roi voulait voir sa fille. Le lendemain, au grand matin, la reine alla dans la salle de bain qui était tout en marbre, avec des coussins moelleux et de magnifiques tapis. Elle prit trois crapauds, les embrassa et dit au premier: place-toi sur la tête de Louise quand elle viendra au bain. pour qu'elle devienne aussi bête que toi. Lève-toi sur son front, dit-elle au second, pour qu'elle devienne aussi laide que toi et que son père ne puisse pas la reconnaître. Repose-toi sur son cœur, murmura-t-elle au troisième, et respire-lui de mauvaises pensées afin qu'elle et les autres aient à en souffrir. Ensuite, elle mit les trois crapauds dans les propres éclairs, qui dans un tissu peu sale et nauséabonde. Elle appela Lise, la déshabilla et lui ordonna de se baigner. Quand Lise se fut mise dans l'eau, l'un des crapauds se plaça dans ses cheveux, l'autre sur son front et le troisième sur sa poitrine. Lise ne parut pas le remarquer. Et quand elle sortit de l'eau, elle vit nager trois pavots. Si les bêtes n'avaient pas été venimeuses et n'avaient pas été embrassées par la sorcière, elles auraient été changées en trois roses. Elles étaient devenues fleurs, cependant, parce qu'elles avaient reposé sur la tête et sur le cœur de Lise. Car elle était trop pieuse et trop innocente pour que la magie eût aucun effet sur elle. Quand la mèche en train dit cela, elle frotta Lise avec du bruit des noix pour qu'elle devint noire. Elle oignit son gentil visage d'une pommade infecte et emmêla ses beaux et longs cheveux. Il était impossible de reconnaître la mignonne Lise. Quand son père la vit à cet état, il fut effrayé et déclara que ce n'était pas là sa fille. Personne ne voulait la reconnaître, sauf que les chiens de garde et les hirondelles. Mais c'était de pauvres animaux à qui on ne demandait pas leur avis. La pauvre Lise fondit en larmes et pensa à ses 11 frères qui avaient disparu. Elle s'enfuit du palais toute désolée et erra tous les jours par les champs jusqu'à ce qu'elle arrivât à la grande forêt. Elle ne savait pas où elle allait. Pourtant, dans sa tristesse, elle pensait toujours aller retrouver ses frères, qui probablement couraient comme elle à travers le monde. Elle n'avait fait que quelques pas dans la forêt quand la nuit vint. Elle s'était égarée et ne pouvait pas retrouver son chemin. Elle se coucha sur la mousse, dit sa prière du soir et posa sa tête sur une racine d'arbre. Tout était tranquille. L'air était doux. Elle s'endormit et toute la nuit, elle rêva de ses frères. Elle rêva qu'ils jouaient comme lorsqu'ils étaient enfants et trouvaient avec des stylos de diamants sur les ardoises en or ou regardaient les fameux livres d'images qui valaient la moitié d'un royaume. Mais sur leurs ardoises, ils ne trouvaient plus seulement des héros et des bâtons, mais les exploits qu'ils avaient accomplis et tout ce qu'ils avaient vu ou qui leur était arrivé. Dans les livres d'images, tout s'animait. Les oiseaux chantaient, les hommes marchaient à venir et parlaient avec lui de ses frères. Lorsqu'on tournait la page, ils pouvaient bien vite se remettre à leur place pour que rien ne fût dérangé dans les images du monde. Quand Lise s'éveilla, le soleil était déjà haut sur l'horizon. L'air était envenimé. Les oiseaux chantaient et venaient se placer jusque sur les épaules de la princesse. Elle entendait l'eau bruire en sortant de plusieurs sources qui s'épanchaient vers un étang entouré de verdure. Autour de l'étang se trouvaient deux pieds glissés, mais à un endroit, le cerf avait fait un passage et Lise put aller par là jusqu'au bord de l'eau. Elle regarda. Dès qu'elle s'aperçut elle-même dans le miroir de l'eau, elle fut effrayée tant elle était brune et laide. Elle prit un peu d'eau dans sa petite main, se frotta les yeux et le front, et son teint redevint blanc et joli comme auparavant. Elle ôta ses vêtements et entra dans l'eau. Jamais fille de roi je suis fidèle à toi. Quand elle lui reprit ses vêtements, elle but à l'une des sources avec sa main, puis elle s'enfonça dans la forêt, sans savoir où elle allait. Elle pensait à ses frères et au bon Dieu, qui certainement ne l'abandonnerait pas. C'est lui qui fait pousser les pommes sauvages pour ceux qui ont faim. Il fit découvrir un de ses arbres couvert de fruits. Elle s'arrêta pour manger, puis elle continua sa route. Le silence était si profond qu'elle pouvait entendre le son de ses pas et sous ses pieds le bruissement des feuilles mortes. Pas un oiseau. D'arbres paraissait si rapproché quand on la regardait à quelque distance qu'on eût dit une crise. Jamais Lise n'avait vu pareille solitude. L'inquiétude la gagna quand vint la nuit. Elle se cacha pour dormir. Il lui sembla voir au rêve le feuillage s'écarter et le bon Dieu la regardait avec bienveillance pendant que de gentils petits anges voltigeaient au-dessus de sa tête. Quand Lise s'éveilla le matin suivant, elle ne savait plus si elle avait rêvé ou si sa vision avait été réelle. Après quelques minutes de marche, elle rencontra une jeune femme avec un panier plein de prunelles sous le bras. Elle en offrit une poignée à Lise qui lui demanda si elle n'avait pas vu passer 11 princes à travers la forêt. Non, répondit la vieille. Mais hier, j'ai vu 11 cygnes portant chacun une couronne d'or sur la tête et qui descendaient en nageant le ruisseau qui est près d'ici. Elle conduisit Lise près d'une berge au pied de laquelle coulait le ruisseau. Les arbres de deux rives entremêlaient leurs longues branches couvertes de feuilles et fermaient comme une voûte au-dessus de l'eau. Congé de la vieille et suivi le ruisseau jusqu'à l'endroit où il se jetait dans l'océan. Elle avait maintenant devant elle la grande mer, mais n'apercevait ni une voile, ni un canot. Comment aller plus loin? Elle regardait les galets innombrables du rivage que la mer avait arrondi. Verre, fer, pierre, tout ce qui avait échoué là, avait été façonné par l'eau et rendu aussi doux au toucher que la main de la princesse. L'océan, se dit la jeune fille, dérive sans cesse et finit par avoir raison de toutes les austérités. Je les ai aussi infatigables. Je comprends ce que vous m'enseignez, vague transparente. Un jour, je retrouverai mes frères. J'en ai la certitude. Au milieu des herbes marines, elle aperçut 11 plumes de cygnes. Elle les ramassa et en fit un bouquet. Il y avait des gouttelettes dessus. Était-ce de l'eau ou des larmes? Elle était seule sur le rivage, mais elle ne s'en apercevait pas et contemplait le perpétuel changement de la mer. Si un gros nuage noir survenait, la mer semblait dire: moi aussi, je vais paraître sévère. Quand le vent se levait, les vagues reculaient. Mais quand il retombait, si calme que fût la mer, il y avait toujours un léger clapotis près du bord. L'eau se soulevait et s'abaissait doucement, comme la poitrine d'un enfant qui dort. Au coucher du soleil, Lise aperçut à l'horizon 11 grands cygnes blancs avec des couronnes d'or sur la tête et qui se dirigeaient de ce côté vers la terre. Ils allaient l'un derrière l'autre et fermaient comme un long ruban blanc. Elle remonta sur la berge et se cacha derrière un buisson. Les cygnes s'abattirent près d'elle en agitant leurs larges ailes blanches. Dès que le soleil disparut, les plumes tombèrent tout d'un coup et Lise vit 11 beaux princes, ses frères. Elle poussa un grand cri car, bien qu'ils eussent beaucoup changé, elle sentait bien cet été. Elle courut à leur rencontre, les abraça, les appela par leur nom. Et quand les frères reconnurent leur petite sœur, si grande et si belle maintenant, ils furent transportés de joie. Ils riaient et pleuraient à la fois, et ils eurent vite fait de lui expliquer la méchanceté de leur belle-mère. Les frères et moi, dit l'aîné, nous sommes forcés de voler tant que le soleil brille dans le ciel. Nous ne reconnaissons la forme humaine que lorsqu'il a disparu sous l'horizon. Et aussi devons-nous faire grande attention d'être près de la terre ferme au moment du coucher du soleil. Si nous nous trouvions alors là-haut dans les nuages, nous serions précipités à terre. Ce n'est pas d'ici que nous venons, mais de l'autre côté de la mer, dans un pays aussi beau que celui-ci. La route est longue. Il faut traverser l'océan et il n'y a pas d'île où l'on puisse passer la nuit. Il y a seulement, tout juste au milieu, un petit rocher sur lequel nous pouvons nous tenir tous en nous serrant et nous reposer. À marée haute, l'eau monte jusqu'à nous, mais nous ne remercions pas moins Dieu. Nous passons la nuit là sous ferme hiver. Sans ce rocher, nous ne pourrions pas revoir notre patrie, car il nous faut deux jours et des plus longs de l'année pour faire la traversée. Une fois par an, il nous est permis de venir ici et de séjourner 11 jours. Nous venons alors par-dessus la grande forêt. Nous regardons le château où nous sommes nés et où demeure notre père, le haut clocher de l'église près duquel repose notre mère chérie. Ici, les arbres et les buissons semblent nos meilleurs amis. Les bûcherons chantent les vieilles chansons qui nous faisaient danser dans notre enfance. Quelque chose toujours nous attire ici. Enfin, nous te retrouvons. Toi, notre petite sœur. Nous avons encore deux jours à demeurer. Puis il nous faut repasser la mer pour retourner dans ce beau pays qui n'est pas le nôtre. Si nous t'ennuyons, mais nous n'avons ni navire, ni barque. Que pourrais-je faire pour vous délivrer de votre condition ici, du monde? Et ils causèrent presque toute la nuit. Ils ne purent dormir que quelques instants. Lise fut éveillée par un bruit d'homme qui battait au-dessus de sa tête. C'était ses 11 frères, changés de nouveau en cygne, qui faisaient de grands cercles au-dessus d'elle. Ils montaient toujours, puis ils s'éloignaient. Mais l'aîné, le plus jeune, était seul près de sa sœur. Il plaça sa tête contre son cœur et elle lui caressa les plumes. Ils passèrent tous les jours ensemble. Vers le soir, les autres revinrent et dès que le soleil fut couché, ils reprirent la forme humaine. Demain, nous repartons et nous ne reviendrons pas avant un an. Mais nous ne pouvons pas rester ici. As-tu le courage de nous accompagner? Mes bras sont assez forts pour te porter à travers la forêt. Mes ailes n'auront-elles pas assez de vigueur tout ensemble pour te porter au-delà de la mer? Oui, prenez-moi, dit-il. Ils passèrent toute la nuit à faire un solide filet de bras, de joues et des yeux. Lise s'endormit sur ce filet, et quand le soleil parut et que les frères se changèrent en cygnes, ils prirent leur filet avec leur bec et s'envolèrent jusque dans les nuages avec leur jeune sœur qui dormait encore tranquillement. Le rayon du soleil frappait ses yeux. Alors un des cygnes se mit à voler au-dessus de sa tête pour la garantir avec ses larges ailes. Quand Lise s'éveilla, ils étaient déjà loin de la terre, et elle crut rêver encore tant c'était merveilleux d'être ainsi porté dans les airs au-dessus de la mer. Il y avait près d'elle une branche couverte de fruits savoureux et un paquet de racines nourrissantes. C'était son plus jeune frère qui avait pensé à cela. Elle lui sourit pour le remercier, elle le reconnaissait bien. Ce celui qui venait au-dessus d'elle pour la protéger du soleil trop ardent. Ils étaient si hauts maintenant que le premier navire qu'ils aperçurent semblait une lumière posée sur l'eau. Derrière eux, il y avait un nuage grand comme une montagne sur lequel elle vit se projeter son ombre et celle de ses frères. Elle n'avait jamais rien vu de si beau. Mais comme le soleil montait et que le nuage s'éloignait, l'ombre disparut. Tous les jours, ils volaient sans interruption, comme une flèche sifflant à travers les airs. Mais ils allaient un peu moins vite qu'à l'ordinaire, car ils avaient leur sœur à porter. Le temps se gâtait et le soir venait. Lise voyait avec angoisse le soleil descendre à l'horizon, sans qu'on découvrit encore le rocher. Il lui sembla que les cygnes redoublaient leur battement d'ailes. Ah, pensa-t-elle, s'il n'arrivait pas à temps, c'est ma faute. Au coucher du soleil, il revient environ homme, tomberont dans la mer et se noieront. Du fond de son cœur, elle adressa à Dieu une prière pour obtenir son aide. Mais on n'apercevait toujours pas le rocher. Les nuages de rage approchaient et des coups de vent annonçaient une tempête. Les éclairs et le tonnerre se succédaient. Le soleil atteignit la surface de la mer. Lui sentit son cœur se briser. Un moment, les cygnes descendirent si vite qu'elle crut tomber. Mais non, car bientôt ils se mirent à flâner. Le soleil était à moitié plongé dans l'eau quand elle aperçut le rocher au-dessus d'elle. Il ne paraissait pas plus gros qu'un phoque qui lève la tête au-dessus de l'eau. Le soleil s'enfonçait rapidement. Il ne restait plus qu'une bande mince au-dessus de l'horizon quand elle mit le pied sur le rocher. La lueur du soleil s'éteignit. Les hauts frères se trouvaient serrés l'un contre l'autre sur le rocher, mais il n'y avait que tout juste assez de place pour eux et leur sœur. Les vagues déferlaient jusque par-dessus eux. Le ciel étincelait comme s'il était en flamme et le tonnerre grondait sans relâche. Mais les frères et leurs sœurs se tenaient par la main et chantaient des cantiques pour affermir leur courage. Quand le jour parut, l'air était pur et frais, et dès que le soleil parut, les cygnes s'envolèrent avec Lise. La mer était encore humeuse, de là où il leur semblait que les vagues, avec le recul, étaient comme des milliers de cygnes qui se balançaient sur l'eau. Quand le soleil fut plus élevé sur l'horizon, Lise vit devant elle au milieu des airs un pays montagneux avec des glaciers étincelants. Elle apercevait un immense palais entouré de colonnades étagées les unes au-dessus des autres. Au fond, on voyait un bois de palmiers et des parterres couverts de fleurs. Lise demanda si ce pays était le terme de leur trajet, mais les cygnes secouèrent la tête. Ce qu'elle voyait, c'était le château superbe, mais toujours changeant, de la fée Morgane. Aucun homme ne peut y pénétrer. Lise regardait avec admiration, lorsque tout à coup, montagne, palais, plantes, tout disparut, pour faire place à 20 fières cathédrales toutes semblables, avec des hautes tours et des superbes clochers. Lise crut entendre le son de l'orgue. Mais c'était seulement le murmure de la mer. Elle était déjà tout près des églises, quand elles se changèrent en une immense flotte qui passa rapidement, voguant à pleine voile et disparut. Ce fut ainsi tout le temps du voyage, jusqu'à ce qu'on aperçut enfin le pays où il se rendait. Là s'élevaient des hautes montagnes bleues avec des forêts de cèdres, des châteaux et des villes. Longtemps avant le coucher du soleil, Lise fut déposée sur un rocher à l'entrée d'une caverne, dont le sol était couvert de plantes grimpantes formant un merveilleux tapis. « À quoi vas-tu rêver cette nuit ?» dit le plus jeune frère en montrant à sa sœur sa chambre à coucher. « Dieu veuille que je trouve en rêve le moyen de vous délivrer, » dit Lise. Cette idée ne la quitta pas. Elle pria Dieu de lui venir en aide. Elle pria brillait encore une fois endormie. Il lui sembla qu'elle volait de nouveau à travers les airs, vers le palais de la fée Morgane, et que la fée volait au-devant d'elle, belle et resplendissante, et pourtant semblable à la fée de la forêt, qui lui avait donné des fruits, et lui avait parlé des signes aux couronnes d'air. Les frères peuvent être délivrés, lui dit-elle, et auras-tu le courage et la persévérance nécessaires. L'eau est plus douce que tes filets, et pourtant elle pollue les pierres les plus dures. Mais elle ne ressent pas les douleurs que tes petits doigts souffriront. Elle n'a pas de cœur et ne trouve pas les angoisses qu'il te fait subir. Vois-tu cette ortie dans ma main? Il en pousse beaucoup autour de la caverne où tu dors. Il n'y a que cette espèce et celle qui croit dans les cimetières qui puissent te servir. Ne l'oublie pas. Il te faudra les cueillir et tes doigts se couvriront d'ampoules cuisantes. Écrase alors la plante avec tes pieds. Tu obtiendras un chanvre solide d'eau qui tissera heure et tunique à longue manche. Jette-le sur les hauts fils et le charme, la magie de la méchante reine, la sorcière, sera rompue. Mais souviens-toi bien que depuis le commencement du travail jusqu'à la fin, combien même des années se passeront, tu ne dois pas dire un mot. Le premier mot que tu prononceras sera un coup de poignard mortel dont tu transpercerais le cœur de tes frères. De ta langue dépend leur vie. La fée donna un coup d'ortie sur la main de Lise et la main lui parut brûlée par le feu. Elle s'éveilla. Il était grand jour. À côté d'elle était l'ortie qu'elle avait vue en rêve. Elle tomba à genoux, remercia Dieu et sortit de la caverne pour commencer son travail. À pleine main, elle arracha les orties qui la brûlaient. Ses bras furent bientôt couverts d'ampoules. Mais elle endura légèrement les souffrances au moyen desquelles elle devait délivrer ses frères. Elle écrasa les orties sous ses pieds nus et se mit à tisser les tuniques. Quand le soleil fut couché, ses frères revinrent. Ils furent effrayés à la voyant muette. Ils crurent d'abord que c'était un nouveau charme de leur méchante marâtre. Mais quand ils virent ses mains, ils comprirent que c'était pour eux qu'elle travaillait. Le plus jeune des frères se mit à pleurer, et à mesure que ses larmes tombaient, Lise ne sentait plus rien, et les ampoules disparaissaient. Elle passa toute la nuit à travailler, car elle ne voulait pas se reposer avant d'avoir délivré ses frères. Tous les jours suivants, elle resta seule pendant que les signes s'envolaient au loin, mais jamais le temps ne lui parut loin. Elle finit une minute et commença la seconde. Fin de la première phrase de l'histoire des signes sauvages. Retourne la question.